CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous » pour notre dernière émission dans ce décor. La semaine prochaine, on se retrouve avec un nouveau décor et un petit changement de concept d'émission également. Vous découvrirez tout ça la semaine prochaine. Et on finit avec un thème extrêmement important. Et ce plateau va entendre un message exceptionnel. Ai-je la garantie de mon salut à cause de ma religion? Est-ce que je suis sûre que je vais aller au ciel à cause de ma religion? C'est notre thème du jour. Bonjour monsieur.
Bonjour Yveline.
Bonjour Yveline.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, super bien.
Grand thème.
Un grand thème. On a, comme souvent dans Bonjour chez vous, peu de temps pour aborder grand thème très important. Mais on a un beau témoignage en cette fin d'émission. En milieu d'émission, on découvrira le témoignage du pasteur Daniel Ali Mbenza qui nous raconte comment, en fait, il a rencontré le Seigneur Jésus alors qu'il était musulman et il a découvert réellement le salut et ça a changé toute sa vie. Donc, vraiment un témoignage exceptionnel d'une démarche d'une personne qui pensait vraiment que sa religion était suffisante à sa vie. Mais non, il a découvert beaucoup plus. Donc, on découvrira son témoignage en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, nous allons commencer avec toi, chérie, dans la pensée du jour.
La plus grande question qu'un homme peut se poser lorsqu'il est sur Terre, la question la plus déterminante, la question la plus essentielle, c'est quand je vais mourir physiquement, où ira mon âme? Est-ce que mon âme ira en bas ou est-ce que mon âme ira en haut? Est-ce que lorsque je me retrouverai aux portes du ciel, est-ce que j'aurai la garantie que je serai accepté dans le paradis de Dieu ou est-ce que je serai refoulé? Il y a au fond de chaque être humain, qu'il le veuille ou pas, qu'il essaye de fuir ou pas cette question à un moment donné face à la mort, il y a la pensée de l'éternité en nous. Où passerai-je mon éternité? Et c'est fou de voir que l'homme, finalement, est en train de rechercher constamment une réponse à cette question. Et les gens vont, certains, d'une religion à une autre, d'une philosophie à une autre, parce qu'ils sont en quête de la vérité. Mais comment être sûr? Comment avoir la paix? Comment être certain qu'après, je serai accepté là-haut par ce grand Dieu? Et les religions proposent différents chemins. Chacune d'elles a un chemin, une façon de faire. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les religions ont un point en commun, sauf le message que la Bible nous donne. Mais toutes les autres religions qui présentent le chemin à suivre pour avoir la vie éternelle et entrer au ciel ont tout un point en commun. Quel est ce point? Toutes les religions sont basées sur les mérites que tu peux avoir en ayant mené une vie droite, une vie équitable. Les religions disent « fais, 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 fais ». La Bible a un tout autre message. Elle dit que le chemin n'est pas un chemin basé sur les mérites et sur les choses qu'on peut accomplir nous-mêmes, bien ou mal, mais la Bible nous dit que le chemin, le seul chemin qui nous mène au ciel est une personne, une relation, une rencontre d'un sauveur qui devient notre Seigneur et qui, lui, par sa parole et parce qu'on le connaît et qu'on lui appartient, nous garantit que ce n'est pas ce qu'on va faire, mais c'est parce qu'on a cru en lui, on lui a donné notre cœur, on l'a suivi et on a fait de lui le Seigneur, le maître de notre vie. Et vous voyez, les religions nous disent « faites, 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 faites ». Alors, il y a toutes sortes, je ne vais pas lister, mais les gens essayent, essayent, essayent. Mais imaginez-vous les grandes déceptions qu'il y aura au ciel. Parce que lorsqu'on se retrouvera, Jésus a dit « beaucoup seront surpris, beaucoup ne comprendront pas, beaucoup diront « mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas ?» Et Jésus va leur dire une chose. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Je vais vous lire un verset. Actes 4, 12, un verset de la Bible. Et ce verset est rempli de vérité, d'autorité. Ce verset dégage pleinement la conviction et la vérité de ce que dit la parole de Dieu. Et elle affirme, la Bible, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ de Nazareth. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le message de la Bible est révolutionnaire parce qu'il dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule voie. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour finir, j'aimerais juste vous parler de cet homme, un brigand qui a mené une vie mauvaise toute sa vie, qui a été crucifié au temps de Jésus sur cette croix. Il a été condamné parce qu'il avait fait ce qui était mal. Certainement, il avait tué, certainement, il avait volé. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, mais c'était un homme de mauvaise vie. Et voilà que cet homme, après avoir fait le mal toute sa vie, se retrouve sur cette croix. Jésus-Christ a été crucifié entre deux brigands et il a pas pu capitaliser avec du bien toute sa vie. Mais voilà que face à Jésus, il se tourne vers Jésus. Il y a un des deux brigands qui se moque de Jésus. « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix toi-même, etc. » Il se moque de Jésus-Christ. Mais lui, il a le cœur touché. Et quand il regarde Jésus, il ne voit pas un homme crucifié, un brigand crucifié. Il voit le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour donner sa vie comme rançon, pour pardonner les péchés de l'humanité. Et quand il tourne ses regards vers Jésus, son regard sur Jésus change et il se dit, celui-ci est le Fils de Dieu. Et il va dire, Jésus-Christ, je regrette mes péchés. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il a eu cette révélation que Jésus-Christ, ce n'était pas un homme. Il était face à son Dieu, le Fils de Dieu. Il a eu cette révélation que il avait mené une vie mauvaise, mais que Jésus-Christ avait la puissance, lui seul, de pardonner ses péchés. Alors il a dit, souviens-toi de moi, je regrette ma vie et je crois en toi. Quand tu viendras dans ton règne, donc il a reconnu que Jésus était le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et il a donné sa vie et soumis sa vie à Jésus-Christ. En un instant, Jésus lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Pas d'effort. Pas d'accomplissement, juste une rencontre avec ce Jésus, juste un cœur repentant. Pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi. Je te donne ma vie. Tu es le roi de gloire. Tu es mon Dieu. Sauve-moi et pardonne mes péchés. Ce jour-là, cet homme a fait de Jésus-Christ le sauveur de son âme et le Seigneur de sa vie. Et il avait la garantie que celui qui ne mourra jamais, celui qui a toujours été, celui qui est le commencement et la fin, celui devant qui un jour toute personne se retrouvera, là-haut, celui-là a dit, je te le dis, tu seras avec moi. Cet homme est mort en paix et son âme est allée dans le paradis de Dieu. Et je vous le souhaite, quoi que ce soit en quoi vous ayez cru jusqu'à ce jour, quoi que ce soit que les hommes vous ont dit, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun autre nom n'a été donné que le sien pour pardonner les péchés. Alors, tourne-toi vers Jésus et il te garantira la vie éternelle.
Amen, amen. C'est le plus beau des messages. Il n'y a rien de plus beau que ce message-là, qui est d'une simplicité extraordinaire. Et c'est vrai que les religions nous disent de faire telle ou telle chose. Et il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit en fait d'une vie, de notre vie, face à celle de Jésus-Christ. Et qu'on soit évangélique, catholique, protestant, musulman, juif, hindou, et j'en passe, toutes les religions parallèles qui s'ajoutent à tout ça, ce n'est pas ça qui va être regardé lorsqu'on va se retrouver devant Jésus, ce jour incroyable où soit notre vie va s'arrêter sur la terre, soit Jésus reviendra sur cette terre. Ce jour-là, on va se retrouver face à face avec lui. Jésus ne va pas nous demander notre carte de membre de telle ou telle église, de telle ou telle religion pour pouvoir entrer. La carte d'accès qu'on devra présenter pour pouvoir entrer au ciel, c'est uniquement « Oui, Seigneur Jésus, je t'ai reconnu, j'ai cru que tu étais le Fils de Dieu, j'ai cru que tu étais le sauveur de ma vie, je t'ai donné ma vie, je me suis repenti parce que je sais qu'il n'y a qu'en toi seul que se trouve la vie éternelle. » C'est la seule chose. Dieu va sonder notre cœur, en un clin d'œil, il va sonder notre cœur et il va savoir si oui ou non notre vie lui appartient, si oui ou non nous sommes soumis à lui. Et il y a une histoire dans la Bible qui est très belle, c'est celle de l'eunuque éthiopien. Et c'est notre verset du jour, on va le regarder aujourd'hui, cette histoire vous la trouvez dans Actes 8, et là on va lire uniquement le verset 37, mais lisez-la au complet dans la Bible. L'eunuque éthiopien a dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Cet homme était en train de lire des textes de l'Ancien Testament et il ne comprenait pas réellement ce qu'il lisait, mais on voyait qu'il était en recherche. Et là, Philippe se retrouve transporté par le Saint-Esprit devant cet eunuque éthiopien qui est dans un char en train de se déplacer. Et Philippe va lui demander « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque va dire « Non, je ne comprends pas, si seulement quelqu'un pouvait me l'expliquer. » Et là, Philippe va simplement lui annoncer le message que tu nous as annoncé, chérie. Ce message aussi simple, il ne lui a pas annoncé une religion, il ne lui a pas dit « Deviens juif » ou « Deviens chrétien », il lui a simplement annoncé Jésus-Christ. Et l'eunuque a simplement répondu « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Après quoi il a été baptisé d'eau, parce que sur sa demande, parce qu'il voulait donner entièrement sa vie à Jésus-Christ, il voulait se soumettre à la volonté de Dieu. Et juste après ça, Philippe a été enlevé encore. Pourquoi ? Parce que c'était terminé. Cet eunuque éthiopien avait accès à la vie éternelle, c'était suffisant. Philippe lui a pas dit « Viens avec moi, viens rejoindre mon église, viens dans mon assemblée, on a une bonne louange, on a des bons temps de prière. » C'était suffisant pour son salut. Après, bien entendu, on sait qu'il faut marcher dans une vie de sanctification. Mais pour cette étape de naître de nouveau, c'était suffisant.
Ouais, en fait, si quelqu'un me regarde et il me pose la question « Frank, as-tu déjà menti ?» Je dirais oui. « Est-ce que tu as déjà volé ?» Je dirais oui. « Est-ce que tu as déjà eu des choses qui ont passé devant Dieu dans ta vie ?» Je dirais oui, absolument. Et toutes ces choses, juste là, font de moi un voleur, menteur, blasphémateur, idolâtre. Je deviens tout ça. Et en fait, il est où le baromètre pour être une bonne personne? C'est quoi qui fait que je suis une bonne personne plus qu'un autre? Parce que moi, vis-à-vis d'un autre, je suis vraiment une mauvaise personne. Mais là, cette personne-là est une excellente personne, mais il y en a qui sont meilleurs que lui. C'est où?
Ouais.
Il n'y en a pas. Celui à qui qu'on peut et qu'on doit se comparer, c'est Jésus. Et les gens vont dire, mais c'est impossible. Mais c'est justement, c'est ça qui est extraordinaire du message de l'Évangile. C'est que Dieu savait que par nous-mêmes, tous les hommes sur cette terre n'étaient pas capables d'être parfaits et d'atteindre la perfection.
Ouais.
Et Jésus est venu et il a pris notre place parce qu'il n'y a personne de parfait. Il n'y a personne d'assez bon que par ses propres mérites, il va pouvoir dire à Dieu, j'étais parfait. J'étais parfait. Dieu va dire, je suis désolé. Tu te rappelles, en 1981, cette journée dans le petit magasin où tu as volé, ça l'a fait de toi un voleur. Et en fait, Jésus est venu prendre notre place. Et c'est ça que les gens, en fait, n'arrivent pas à réaliser. C'est que par nos propres forces, on peut être des gentilles personnes, des bons vivants. On dit au Québec un bon Jack, quelqu'un qui est bon, un bon gentil gars, il est drôle. Mais face à Dieu et face à la perfection qui est demandée, c'est pas à la hauteur.
Ouais.
Tellement loin de ça, en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et en fait, les gens peuvent dire, mais tout est évangélique. Comme tu dis, Evelyne, t'es baptiste. Ah, oh, mais les baptistes, ah, oh, les catholiques, ah, oh, eux, et eux, les hindous. Et non, en fait, on est tout simplement enlevé toutes ces étiquettes. On est des disciples de Jésus qui sommes devenus des enfants de Dieu.
Amen.
Et on témoigne d'une relation vivante et vraie parce qu'on a vécu et des milliards, 1 milliard et plus de personnes ont vécu une transformation et ont vécu la main de Dieu dans leur vie par des guérisons, par des délivrances, par des pardons. C'est quelque chose de vivant qu'on prêche aujourd'hui.
Oui.
C'est pas une théologie intellectuelle. C'est quelque chose de vrai que des centaines de millions et, comme je dis, des milliards et plus de gens ont vécu et qui peuvent attester que Dieu est vivant et qu'il agit. Dieu m'a guéri. Dieu a fait des choses dans vos vies. Et c'est pareil pour chaque chrétien sur cette terre.
Amen. Amen.
Il y a une question qui est essentielle, que tout le monde doit se poser, en fait. C'est la question. Est-ce que Jésus-Christ me connaît et est-ce que je lui appartiens? Et je me souviens avoir posé des questions des fois où des personnes m'ont posé des questions. Question, mais est-ce que tu as l'assurance, toi, là, que si tu meurs aujourd'hui, tu iras au ciel? Eh bien, les gens ne savent pas répondre. Parce que leur religion n'apporte pas de certitude.
Ouais.
On verra si je suis accepté. Eh bien, moi, j'aimerais dire, et je sais que c'est aussi votre cas, que quand on fait une rencontre avec Jésus et qu'on se tourne vers Jésus, lui, il pardonne nos péchés, littéralement, et il nous donne cette assurance que oui, quand on sera là-haut, oui, on sera condamnable. Oui, le diable va pouvoir se lever et dire « Oui, Michael a fait ça, Frank a fait ça, Evelyne a fait ça. » Mais je sais une chose. Celui qui m'a dit que je devais mettre ma confiance en lui,
ouais,
à qui j'ai donné ma vie, va se lever et va dire il m'appartient. Et là, toute la condamnation sera effacée et déchirée.
Ouais. Amen, amen. On va maintenant regarder le témoignage d'un homme. Et juste avec son nom, vous pouvez deviner de quelle religion il était. Daniel Ali Mbenza, ancien musulman, il a rencontré Jésus-Christ. C'est dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de recevoir le pasteur Daniel Ali Mbenza. Bonjour, pasteur Daniel.
Bonjour, Evelyne.
Tu vas bien ?
Oui, merci. Et toi ?
Oui, ça va très bien, ça va très bien. Quand je prononce ton nom, on entend ce petit mot « Ali » et on comprend que tu es issu d'une famille musulmane.
Tout à fait.
Et c'est le témoignage que tu viens nous raconter, en fait, comment de musulman que tu as grandi. Et à un moment donné, tu as fait une rencontre, celle du Seigneur Jésus, qui a changé toute ta vie. Et tu es né au Congo.
Oui.
Et tu as perdu malheureusement tes parents très jeunes.
Tout à fait. À l'âge de 8 ans, ma mère est décédée. Elle en avait 27.
Très jeune.
Elle est partie très jeune. Et 3 ans plus tard, à 11 ans, mon père aussi est décédé. Il en avait 33.
Oh là là.
Donc, on avait une vie aisée avec nos parents. Ils nous ont tout donné. Il y avait l'amour d'un père, leur présence et tout, etc. Seulement, lorsqu'on est venu au monde, on était dans une famille musulmane, mais nous... un petit enfant, on t'initie au Coran, c'est la religion. Au-dedans de toi, tu ne cherches pas vraiment Dieu. Mais quand les parents sont partis, cette souffrance, parce que nos parents étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient aisés, mais on est passé de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Bien entendu, mon père, avant son décès, on a vu comment sa richesse diminuait et comment il perdait graduellement tout ce qu'il avait. Et là, on va aller vivre chez la grand-mère. Et la grand-mère qui a beaucoup d'amour pour nous, mais les moyens ne sont pas là. Mm. Alors c'est tout un débalancement dans le cœur d'un petit enfant.
Bien sûr.
Et c'est par là qu'il y a des choses qui étaient enfouies au-dedans de moi. Ben, on grandit comme ça. Et là, on commence à chercher à s'appuyer sur Dieu dans la religion, croyant qu'il y a une réponse. Mm. Mais en ce qui me concerne, parce que ma grand-mère nous amenait à l'école coranique et tout ce qui venait, mais que de trouver réponse aux questions... Ce n'est pas ça qui est arrivé. C'est comme on s'est retrouvé plus dans un mécanisme, une routine. Il n'y avait rien de concret. Mm-hmm. Et mon cœur était assoiffé. À un moment donné, on s'est retrouvé juste pratiquant avec des douleurs mm-hmm. qui sont enfouies.
Mm. Alors, qu'on essaye de cacher comme on peut et de penser comme on peut.
Exactement. Mm. Donc, c'est plus tard, à 22 ans, je me retrouve en Belgique. Avec une vie de débauche. Mm. Il y a eu la guerre, à part ce qui s'est passé à mon enfance, il y a eu le génocide au Rwanda. Mm. Nous, on habite à Goma à l'époque. Mm-hmm. Alors, c'est des questionnements existentiels qui commencent à se poser. On voit plusieurs morts. Il y avait l'épidémie et tout ça. Alors, quand on parvient à quitter l'Afrique pour arriver en Europe, mm-hmm. mais il y a tous ces bagages qu'on a dedans de nous.
C'est ça.
Tout à fait, la souffrance d'avoir perdu les parents trop jeunes, et on est sans papier. Et j'espérais que c'est en Europe que j'allais trouver le repos. On espérait que c'est le paradis, parce que tout est miroité quand tu es au loin. Tu penses que c'est là que tout se passe, et c'est là qu'il y a tout. Non. Et tout de suite, j'essaie de sombrer maintenant dans l'alcool. Je deviens délinquant. Mmh. Je deviens délinquant en Europe, pas de papier. Je ne peux pas étudier, je ne peux rien faire. C'est un peu de travail au noir. Mm-hmm. Et c'est dans ces chaos, à la recherche de Dieu aussi, parce que alors qu'on était à Goma, un des oncles paternels s'était converti, mais on faisait plus de discussions. Je ne voyais rien de concret. Mm-hmm. Tu étais dans l'islam, tu as quitté l'islam, maintenant tu es chrétien. Je le bombarde avec des petites connaissances que j'ai de la Bible, que je n'avais pas du tout, un peu du Coran. Je me demande comment il a accepté une telle représaille. Il m'avait dit quelque chose, un jour tu comprendras. Parce qu'il n'avait plus de mots. Et je ne savais pas que ces jours allaient arriver un jour, parce que Isabelle, mon épouse aujourd'hui, elle va se convertir au Rwanda à l'époque, mais quand elle arrive en Belgique, elle vient s'installer en Belgique, et là on se retrouve, on reconnecte. Alors là, je vois une transformation en elle.
Oui, parce que tu l'as connue avant qu'elle soit chrétienne, avant qu'elle connaisse le Seigneur, elle qui était également brisée, blessée. Mm-hmm. Tu vois la transformation, tu vois cette nouvelle personne, et là tu te dis, y a quelque chose de bizarre en fait.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, en la voyant, j'ai senti qu'elle avait goûté à quelque chose que je cherchais. Mmh. Au-delà de l'amour qui pouvait nous unir comme être humain, mmh. Elle mettait des barrières à cet amour-là, mais elle me montrait un autre amour que je n'avais jamais connu.
L'amour de Dieu.
Tout à fait. Mmh. Et alors là, ça commençait à m'interpeller. Ça commençait à m'interpeller petit à petit. Elle me disait de belles paroles, genre « Tu détruis ces temples, tu es le temple de Dieu. » Parce que je fumais à l'époque beaucoup et ça me faisait souffrir. Dans beaucoup de ténèbres, ça me faisait souffrir. Je fumais malgré moi, je ne pouvais pas me détacher. Je lui lançais des petites choses genre « Dis à ton Dieu alors de me sortir de la cigarette. » Elle a dit « Oui, je vais prier. » Un jour, elle est entrée dans le supermarché avec sa cousine. Je suis resté dehors avec leur enfant, et moi, l'enfant de sa cousine.
De sa cousine, oui.
Et je voulais fumer. Et cet enfant qui va me dire, mais tonton Ali, tu sais que ce n'est pas bien de fumer. Hein? C'est un petit enfant qui me l'a dit. Et quand je voulais tirer la cigarette, j'ai senti un goût amer. Mm. C'est comme tout de suite, j'ai laissé. Et quand elle est sortie, je lui ai donné le paquet de cigarettes. Je lui ai dit, je ne veux plus fumer. En fait, sa relation avec moi était devenue plus une relation d'évangélisation.
C'est ça. Vous n'étiez plus en couple à ce moment-là?
Non.
Parce qu'elle, elle ne voulait pas avoir cette relation de couple avec quelqu'un qui n'était pas chrétien.
Tout à fait.
Qui ne partageait pas sa foi.
Tout à fait.
Mais elle, elle voulait te faire goûter à l'amour de Dieu.
Exactement. Mmh. Exactement.
Et tu l'accompagnais, tu étais un peu son chauffeur, c'est
exactement. Ça? Exactement. Mmh. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Je lui ai donné le paquet de cigarettes, j'ai dit, garde ça. Et puis, deux, trois semaines après... Elle a gardé, parce qu'elle pensait que je vais lui demander. Elle a vu que je ne fumais plus. Et ça, c'était un miracle qui s'était opéré. Et plus je me parlais de Jésus, plus je voyais ce que Jésus faisait dans ma vie par ses prières. Et un jour, elle a voulu que je l'accompagne. Arrivée dans une église, je le laisse là. Moi, je vais aller prendre un peu d'alcool avec mes amis. Je lui dis, je reviendrai vous chercher après votre sortie. Et quand je reviens, le pasteur n'avait pas encore fini de prêcher. Je reste dehors, mais la prédication ce soir-là, le pasteur va dire des choses qui vont m'interpeller.
Parce que tu vas l'entendre.
Je vais l'entendre. Mm-hmm. Je suis à l'extérieur, mais je vais l'entendre. Voilà pourquoi il faut des fois laisser les pasteurs parler très fort. Et il va parler, il va dire, les diables méchants, ils te donnent une soif. Et après, donc ils te frappent dans la gorge, ta soif. Et après, ils te frappent dans ta poche parce que tu vas acheter à boire. Et le lendemain, tu as des mal de tête. Et tu n'aimes pas ta vie, etc. J'ai vu qu'il parlait de moi, en fait. Wow. Alors là, on rentre, elle sort, « Ah, oh, t'es là? Oui, pourquoi t'es pas entrée ?» J'ai dit, « Mais avec mon alcool, je ne pouvais pas entrer. » Je les ramène, arrivée chez elle, avec sa cousine. Bon, on me sert encore à boire, et puis après, parce que sa cousine, son mari n'était pas sauvé. Mm-hmm. Et je vais prendre mon verre, et après, je dis, « Je vais partir. » Elles vont dire, « On va prier pour toi avant de partir. » Et là, je vais dire, « D'accord. » Elles vont se mettre à prier pour mon chemin et tout. Et dès que j'ai dit, « Je vais prier aussi. » Et c'est là qu'elle se regarde, genre, est-ce qu'ils vont me demander un tapis, un musulman qui va prier?
Oui.
Et là, tout de suite, je précise. J'ai dit, je ne veux pas prier votre Dieu, ni les dieux des musulmans. Parce que j'étais devenu comme un athée, musulman de nom, parce qu'il n'y avait rien dedans.
Tu ne croyais plus en rien.
Je ne croyais plus à rien. Mm-hmm. Mais j'avais soif. Mm. Soif de connaître ces dieux, soif de changement. Et là, je vais dire, Dieu, si tu es Dieu, avec toute l'arrogance, si tu es Dieu, je ne suis pas malade, les gens disent, tu guéris les malades, et tu sais, je veux te voir. Je veux voir Jésus, un homme qui est Dieu. Viens m'apparaître.
Wow.
Et dis-moi que tu es Dieu. Et tout de suite après, je veux te donner ma vie. Et si je ne le vois pas, d'ici, j'ai donné l'ultimatum, 30 jours ou 3 semaines, mais j'ai donné l'ultimatum. Mm-hmm. Si je ne te vois pas, alors tu n'es pas Dieu pour moi. Je vais juste c'est n'importe quoi, donc je vais continuer dans mes affaires et ma soif et tout. Et là, tout de suite, Isabelle va dire, c'est tout ce que tu demandes? Elle avait une telle assurance.
Oui, vraiment.
C'est comme, est-ce que. Donc, il va venir me voir. Et là, je profite pour placer mon besoin. Je suis un sans-papier. Je dis, non, c'est pas tout. Ce soir, en rentrant à la maison, je veux qu'en ouvrant la boîte à lettres, que je voie l'enveloppe du Haut-Commissariat qui est là, et je veux que la réponse soit positive. Et si c'est positif, donc, Dieu, je vais donner ma vie. Elle dit, c'est tout.
La journée même, tu exiges ça, donc...
Pas des délais.
C'est ça, donc c'est quasiment du domaine de l'impossible.
Exactement. D'accord.
Et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives chez toi?
Waouh. Mais bien avant ça, Evelyne, quelque chose que je ne dois pas oublier, Isabelle va fermer les yeux, elle va dire « Man, igaragazi », parce que c'est en Kinyarwanda, ça veut dire « Dieu manifeste-toi ». Cette assurance va encore me toucher quelque part.
Oui.
Ben, j'arrive à la maison, j'ouvre la boîte à lettres et tout de suite, il y avait l'enveloppe du Haut-Commissariat dedans. Là, j'ai peur, j'ai panique, parce que chez les musulmans, on dit « Tu ne peux pas voir Dieu vivre ». Et là, j'avais peur de la mort, parce que dans mon cœur, il y avait des choses qui n'allaient pas très bien. Et toute la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. J'avais tellement peur, je voulais que la lumière arrive, là, que le matin arrive rapidement. Et je repars chez sa cousine, là, Isabelle habitait. Je lui dis, au fait, je ne veux pas que Dieu m'apparaisse. Il est Dieu. Il sait comment il peut se manifester à moi. Il sait comment il peut venir à moi. Prier pour que Dieu ne se manifeste pas comme ça, mais qu'il me convainc tout simplement. Et c'est le rire qu'elle avait fait ces jours-là, parce qu'elle avait compris que mon cœur, il y a un travail qui avait commencé.
Oui, la crainte de Dieu, en fait.
Tout à fait. Mm-hmm. Elle a prié, et puis deux, trois semaines après, elle demande que je l'accompagne à l'église. Je n'avais rien à faire, c'est un dimanche. J'y vais. Le pasteur prêche. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a prêché. J'étais à moitié endormi, à moitié réveillé. Mais à la fin du message, il fait l'appel au salut. Je sais c'est quoi aujourd'hui, mais à l'époque, je ne sais pas c'était quoi. Mm-hmm. Il dit, tu es là aujourd'hui. Il y a Dieu qui t'appelle et tout. Et tout de suite, je me suis senti déconnecté de ce monde. Et j'étais comme dans un monde de l'esprit. Et j'ai écouté une voix qui dit, mon fils, ce n'est pas une voix audible comme ça, mais dans mon esprit, c'était plus vrai que la voix audible. Oui. Mon fils, viens maintenant. C'est maintenant que j'ai besoin de toi.
Wow.
Mon fils, et ça, j'avais perdu mes parents très tôt. J'ai senti cette voix. Donc, il y a un père. Et du coup, je posais des questions comme un homme, il me répondait comme un Dieu. J'ai dit, j'ai peur des représailles. Il me disait, mais ta famille est loin. Et après, j'ai dit, mais je prends encore l'alcool. Ça, c'est pour les gens qui sont purs. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Donc, je vivais cette dualité, mm-hmm. cette challenge. Et plus je parlais, je ne sais pas comment, si j'ai demandé un passage pour arriver devant le pasteur, si j'ai été transporté par les anges, ces petits bouts m'échappent de mon existence. Et j'étais devant le pasteur. De larmes chaudes qui coulaient. J'ai ressenti l'amour d'un père. J'ai senti comment mes péchés étaient pardonnés, combien j'étais aimé. Mmh. Et tout de suite après, un diacre m'a pris à côté et il m'a dit ces mots. Ça fait 21 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai jamais regretté. Et moi, ça fait 21 ans aujourd'hui. Parce que j'espérais un jour vivre cela. Ça fait 21 ans aujourd'hui que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis passé de l'islam à disciple de Jésus et ma joie est grande. Ma joie est grande.
Amen. Et tu n'as jamais regretté.
Je n'ai jamais regretté. Mmh. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, en t'encourageant, peut-être ta vie est remplie de douleurs d'enfance, peut-être ta vie est remplie de difficultés, de sans-papiers, peu importe, je ne sais pas, les douleurs sont différentes d'une personne à une autre, mais laisse-moi te dire, si tu t'abandonnes dans les mains d'un Père céleste, c'est un papa. Tu n'es pas venu au monde au hasard. Alors laisse-moi te dire, il te suffit juste de faire cette courte prière en disant avec moi, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Je ne comprends pas, mais je sens simplement que je vais m'abandonner dans les bras d'un Père. Viens, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés et fais-moi vivre cet amour du Père. Je te donne ma vie et je fais cette prière sincèrement au nom de Jésus. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Daniel, pour ce très, très beau témoignage. On voit ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Peu importe là d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, aujourd'hui, tu as l'assurance de ton salut et de la vie éternelle. Cette histoire, c'était la sienne. Ça peut devenir peut-être la vôtre, que vous, peu importe la religion de laquelle vous êtes membre, de laquelle vous faites partie, peu importe l'adhérence que vous avez, Jésus-Christ, si vous reconnaissez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur et le Seigneur de votre vie, vous pouvez simplement lui dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je me repens, que ma vie t'appartienne maintenant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous sur notre nouveau décor. Passez un très bon week-end.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.